Touchez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre esprit, Seigneur, et il se fera une création de nouvelle.
Et vous renouvellerez la face de la terre.
Prions, ô Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Cœur sacré de Jésus, cœur douloureux et immaculé de Marie. Saint Grégoire le Grand,
priez pour nous.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Alors, c'est la dernière conférence de l'année. C'est pour ça que vous êtes venus si nombreux ce soir. Non. Nous avons essayé de faire un survol rapide cette année de l'Ancien Testament, ou au moins de textes choisis de l'Ancien Testament, puisqu'il serait difficile en 8 conférences, donc en 8 heures, de résumer l'ensemble de l'Ancien Testament, qui dans mon édition représente 1164 pages. Mais malgré tout, j'ai essayé de vous donner un petit peu quelques grilles de lecture pour vous aider à apprécier la Sainte Écriture et puis à la fois pour votre vie spirituelle et puis également, même dans la crise de l'Église, je pense que l'Ancien Testament peut nous aider à vivre cette crise avec sérénité et confiance, en voyant que dans l'Ancien Testament, le peuple choisi a lui-même été en butte aux persécutions, et très souvent, la majorité même du peuple s'est égarée, mais le bon Dieu a toujours conservé un reste, et ce reste a servi ensuite au peuple pour de nouveau croître et ainsi préparer la venue du Messie. Alors, ce qui était vrai dans l'Ancien Testament est vrai également encore aujourd'hui. Et justement, s'il y a bien un saint qui doit nous aider pour notre temps, c'est bien le prophète Élie, dont nous allons parler ce soir. Après l'étude du prophète Isaïe, donc, voyons qui fut le prophète Élie. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, avant de vous parler du prophète Isaïe, j'avais essayé de vous expliquer un petit peu la signification et la mission des prophètes dans l'Ancien Testament. Et je vous avais dit que le terme de prophète signifie à la fois celui qui annonce des événements futurs. En général, quand on parle d'un prophète, on pense toujours au futur. Mais le terme de prophète veut aussi dire celui qui parle au nom de Dieu. Et quand on parle des prophètes dans l'Ancien Testament, c'est autant, sinon plus parfois, dans ce second sens que dans le premier. Et en tout cas, ce fut le cas du prophète Élie. Et c'est la raison pour laquelle le prophète Élie ne figure pas parmi les 4 grands prophètes de l'Ancien Testament, puisque ceux qui étaient là la dernière fois se souviennent que les 4 grands prophètes sont Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, et ils ne figurent pas non plus parmi les 12 petits prophètes. Mais il reste un prophète malgré tout, dans le sens où il a parlé au nom de Dieu. Et on peut même dire qu'Élie est sans doute la plus grande figure de l'Ancien Testament après Moïse. Alors comme je l'avais fait également pour Isaïe, voyons un petit peu la situation politique au moment où le prophète Élie va apparaître dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est après le schisme. C'est après le schisme qui a eu lieu au temps de Roboam, qui était le fils de Salomon. En ce temps-là, 10 tribus se sont détachées de la tribu de Juda pour former ce qu'on a appelé le royaume d'Israël. Vous aviez la tribu de Juda et de Benjamin, qui était en général, d'une façon générale, la plus fidèle à Dieu. Et puis ensuite, vous aviez le royaume d'Israël, avec un roi aussi à la tête. Alors, voyons tout d'abord le royaume d'Israël. Au temps du prophète Élie, c'est le roi Akab qui est le roi d'Israël. Il va intervenir plusieurs fois, vous allez le voir, dans l'histoire du prophète. Akab va épouser Jézabel. Jézabel, la fille du roi de Sidon, donc la fille d'un roi païen. Et vous le savez, le bon Dieu avait mis en garde contre les mariages mixtes, contre les mariages avec des gens des fausses religions. Parce qu'en général, quand on épousait une femme d'une fausse religion, on épousait également le culte du faux Dieu. Et c'est justement Jézabel, princesse idolâtre, qui va faire introduire en Israël le culte de Baal et d'Astarté, donc le culte des faux dieux. Jézabel va faire mettre à mort plusieurs prophètes du vrai Dieu, et elle va persécuter les Israélites fidèles à Dieu. Elle va même établir 450 prêtres de Baal et 400 prêtres d'Astarté, donc qui vont honorer des idoles. Et on verra ensuite comment le prophète Élie va réagir face à ces prêtres qui honoraient des faux dieux. Donc, au moment où Élie apparaît, Akab est roi. Il sera roi de 874 à 853, c'est-à-dire pendant 20 ans. À la même période, le royaume de Juda est dirigé par Josaphat. Josaphat qui sera roi de 873 à 848. J'ai omis les dates, voilà. 873 à 848. Et le ministère d'Élie va se dérouler entre 870 et 853. On ne connaît rien de l'histoire d'Élie jusqu'au moment où il apparaît justement dans la cour du roi Akab. Et en 853, Élie va être élevé au ciel, comme nous allons le voir, dans un char de feu. Donc, c'est une période relativement courte, 17 ans. Alors, quelles sont les principales étapes de la vie du prophète Élie, ou au moins de ses apparitions sur la terre ? Le terme Élie signifie Yahvé est mon Dieu. Yahvé est mon Dieu. Et très souvent, dans l'Ancien Testament, on voit que le bon Dieu donnait des noms qui étaient toujours, qui évoquaient bien la mission de ces prophètes de l'Ancien Testament. Et si le nom d'Élie signifie Yahvé est mon Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Yahvé. Et par conséquent, on verra que la mission d'Élie sera de rappeler qu'il y a un seul vrai Dieu et que les autres sont des faux dieux. Donc, Élie va apparaître comme étant le sauveur de l'honneur de Dieu. C'est un prophète anti-écuménique par excellence. Élie est originaire de Tishbé qui se trouve au bord du Jourdain. Alors j'ai essayé de vous décrire la Palestine ici, avec le lac de Galilée, la mer Morte, et donc Tishbé est ici, à droite du Jourdain. C'est là qu'est né Élie. Il entre en scène sans aucune présentation dans la cour du roi Akab. Alors afin de ne pas me détourner du sens original, et je vais vous lire les passages qui traitent du prophète Élie dans la Sainte Écriture. Donc cela se trouve dans le premier livre des rois, au chapitre 7. Élie qui entre en scène. Élie le Tishbite de Tishbé en Galaad dit à Akab: Vive Yahvé, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de Yahvé fut adressée à Élie en ces termes: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi au torrent de Kérit, qui est à l'est du Jourdain. C'est du torrent que tu boiras, et j'ai commandé au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de Yahvé. Et il alla résider au torrent de Kérit, qui est à l'est du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Donc, Élie qui apparaît sur l'ordre de Dieu comme étant celui qui est capable de faire pleuvoir et d'empêcher au contraire la pluie de tomber. Donc, il annonce une grande sécheresse sur la terre d'Israël et il s'enfuit ensuite au torrent où un corbeau va le nourrir. La sécheresse était en réalité une punition de Dieu en raison des péchés du roi Akab et de l'apostasie du peuple. En effet, Akab s'était associé à la perversité de sa femme qui adorait les faux dieux. Et donc, s'il est vrai qu'Akab n'abandonne pas tout à fait le vrai Dieu, son péché, c'est de vouloir honorer à la fois le vrai Dieu et les faux dieux. Il va régulièrement faire une visite au temple de Baal. On peut faire des analogies avec ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc le reproche que fait Élie, c'est qu'il va rendre visite dans les temples des faux dieux. Et en effet, c'est le reproche que l'on voit dans la Sainte Écriture. C'est premier livre des rois, chapitre 16, versets 29 à 33. Akab devint roi d'Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Et Akab régna 22 ans sur Israël à Samarie. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, plus que tout ce qui avait été avant lui. Mais comme c'était peu pour lui de marcher dans les péchés de Jéroboam dont il était descendant, il prit pour femme Jézabel, fille du roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Akab fit aussi une Akéra. Akab surpassa tous les rois d'Israël, ses prédécesseurs, pour irriter Yahvé, le Dieu d'Israël. Donc, on voit bien que ce qui a irrité le bon Dieu, c'était le fait qu'il voulait adorer à la fois Dieu et les faux dieux, en allant rendre visite au temple de Baal. Ensuite, nouvelle intervention, un petit peu plus tard. Mais après des jours, le torrent se dessécha. Le torrent, donc, où se trouvait Élie, là où le corbeau venait lui donner à manger. Car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de Yahvé lui fut adressée en ces termes: Debout, va à Sarepta de Sidon et tu y demeureras. Voici que j'ai ordonné là à une veuve de te nourrir. Et donc il va partir et il va vivre chez une veuve pendant 3 ans et demi. Une veuve qui était là avec son fils. Et Saint-Luc d'ailleurs fait allusion à cela, à ce passage. Chapitre 4, versets 24 à 26. En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien vu dans son propre pays. Donc c'est notre Seigneur qui parle. Aussi vrai que je vous le dis, il y avait bien des veuves en Israël au temps d'Élie, quand le ciel fut fermé pendant 3 ans et demi, alors qu'il y eut une grande famine dans le pays. Pourtant, ce n'est pas vers aucune d'elles qu'Élie fut envoyé, mais vers une veuve de Sarepta, du pays de Sidon. Donc Sarepta, ça j'ai oublié de noter, oui, ça se trouve donc au nord-ouest d'Israël, mais à l'extérieur du pays d'Israël. Donc c'était une veuve qui était païenne, qui adorait le vrai Dieu dans son cœur, vers laquelle est allé le prophète Élie sur l'ordre de Dieu. Notre Seigneur rappelle ce passage pour montrer qu'on n'est jamais prophète dans son pays. Au bout de 3 ans et demi, Élie, sur l'ordre de Dieu, va se rendre chez Akab et lui reprocher son culte de Baal et d'Astarté. Et alors, il propose un jugement au sommet du mont Carmel. Donc c'est un passage, c'est sûr que dans l'église officielle, j'aurais du mal à expliquer aujourd'hui. Après beaucoup de jours, la parole de Yahvé fut adressée à Élie, dans la 3e année, en ces termes. « Va, montre-toi à Akab, et j'enverrai de la pluie sur la face du sol. » Et Élie partit pour se montrer à Akab. La famine sévissait durement à Samarie. 3 ans et demi sans pluie, vous imaginez ce que ça peut être. Déjà, l'été chaud. Au bout de quelques mois, 3 ans et demi, c'était terrible. La famine sévissait durement à Samarie. Akab fit appeler Obadiahou, chef de sa maison. Or, Obadiahou craignait beaucoup Yahvé. Car lorsque Jézabel massacra les prophètes de Yahvé, Obadiahou prit 100 prophètes et les cacha 50 par 50 dans des cavernes et les approvisionna de pain et d'eau. Akab dit à Obadiahou, « Va vers le pays, vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets et nous n'aurons pas à supprimer de bétail. » Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Et donc c'est là que Obadiahou finalement va rencontrer le prophète Élie. Et Élie lui dit de le conduire chez son maître, chez Akab. Et alors Obadiahou n'ose pas parce que Akab sait que c'est le prophète Élie qui a fait arrêter la pluie. Et donc Akab voulait mettre Élie à mort. Mais finalement, il finit par accepter. Vive Yahvé des armées devant qui je me tiens, aujourd'hui je me montrerai au roi. Voilà ce que dit Élie. Obadiahou alla à la rencontre d'Akab et rapporta le message. Et Akab se rendit au-devant d'Élie. Lorsque Akab vit Élie, donc le roi, lorsque le roi vit Élie, Akab lui dit, est-ce toi qui troubles Israël? Parce que justement, il n'y a plus de pluie maintenant en Israël. Et Élie répondit, je ne trouble pas Israël, mais c'est toi et la maison de ton père, en ce que vous avez abandonné les commandements de Yahvé et que vous êtes allés après les Baals. Maintenant, envoie rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Akéra qui mangent de la table de Jézabel. Alors, quand je suis allé en Terre Sainte, j'ai eu l'occasion d'aller jusqu'au mont Carmel, justement, et on a vu l'endroit où s'est produit ce... où Élie a confondu les prophètes de Baal. Akab manda tous les enfants d'Israël et rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie avança vers tout le peuple et dit, « Jusque à quand clocherez-vous sur les deux jarrets ? Si Yahvé est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Donc ce qui est insupportable, c'est de ne pas choisir. C'est de vouloir être de deux côtés en même temps. Jusque à quand clocherez-vous sur les deux jarrets ? Et Élie dit au peuple, « Moi je reste seul comme prophète de Yahvé, mais les prophètes de Baal sont 450. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le dépècent et qu'ils le placent sur le bois, mais sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis vous invoquerez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de Yahvé. Le Dieu qui répondra par le feu
c'est lui qui est Dieu. Tout le peuple répondit et dit, c'est bien. Alors vous imaginez, chacun prépare l'emplacement pour le sacrifice, chacun son taureau. Et puis, d'abord, par politesse, Élie demande aux autres d'invoquer leur Dieu. Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le d'abord, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, « Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils clochaient autour de l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Invoquez à pleine voix, car il est Dieu. Est-il à deviser? A-t-il à s'isoler? Est-il en voyage? Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. » Et ils invoquèrent à pleine voix, et ils s'entaillèrent selon leur rite avec des épées et avec des dards, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Imaginez les rites païens. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au temps où l'on présente l'oblation du soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Ah si, il y a un signe. Alors Élie dit à tout le peuple, « Avancez vers moi. » Tout le peuple s'avança vers lui. Il répara l'autel de Yahvé qui avait été renversé. Élie prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, dans les 12 tribus d'Israël. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de Yahvé, puis il fit autour de l'autel une rigole de la capacité de 2 mesures de semences. Il disposa le bois, dépeça le taureau et le plaça sur le bois. Et il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Donc pour être encore plus significatif que c'était un vrai miracle, il commence par arroser d'eau tout le taureau et puis l'endroit où il se trouvait. Il dit, faites-le une seconde fois. Donc, une deuxième fois, on rajoute de l'eau encore dessus. Il dit, faites-le une troisième fois. Troisième fois, on rajoute de l'eau dessus. L'eau courut autour de l'autel et il fit remplir aussi d'eau la rigole. Au temps du soir où l'on offre l'oblation, Élie le prophète s'avança et dit, Yahvé, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que vous êtes Dieu en Israël, que je suis votre serviteur, et que j'ai fait tout cela selon votre parole. Répondez-moi, Yahvé, répondez-moi, afin que ce peuple sache que c'est vous, Yahvé, qui êtes le Dieu, et que c'est vous qui avez retourné entièrement leur cœur. Alors le feu de Yahvé tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et absorba l'eau qui était dans le fossé. Ça doit être assez impressionnant. Imagine. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et ils dirent, c'est Yahvé qui est Dieu, c'est Yahvé qui est Dieu. Et Élie leur dit, saisissez-vous des prophètes de Baal, que pas un d'eux n'échappe. Ils les saisirent et Élie les fit descendre au torrent de Kishon, où il les tua. Voilà, le jugement. C'est pas très écuménique, non, c'est vrai. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car j'entends le crépitement de la pluie. Akab s'en alla pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et s'inclinant vers la terre, il mit son visage entre ses genoux, et il dit à son serviteur, « Monte donc et regarde du côté de la mer. » Il monta, regarda et dit, « Il n'y a rien. » Et Élie dit, « Retourne 7 fois. » À la 7e, il dit, « Voici un petit nuage comme la paume de la main d'un homme qui vient de la mer. » Et alors, à travers ce premier nuage qui arrive après 3 ans et demi de sécheresse, on a vu le symbole de la Sainte Vierge qui a fait pleuvoir le juste. Et c'est pour cela que pendant le temps de l'Avent, on chante le Rorate Tcheli des Soupers. Rorate Tcheli. Donc c'est faites pleuvoir la rosée et que fasse pleuvoir le juste. Eh bien, qui vient des nuages. Donc, le nuage, c'est la Sainte Vierge qui fait pleuvoir le juste, qui est notre Seigneur. C'est de là que vient la prière du Rorate Tcheli des Soupers. Voici un petit nuage comme la paume de la main d'un homme qui monte de la mer. Et Élie dit, va dire à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne te retienne pas. En peu de temps, le ciel fut assombri par les nuages et le vent, et il tomba une forte pluie. Donc la justice de Dieu s'était faite, les faux prophètes avaient été, sur l'ordre de Dieu, avaient été mis à mort. Eh bien, la pluie est revenue. Mais alors, ça s'est passé en présence d'Akab. Et ce passage est rapporté aussi dans Saint Jacques. Saint Jacques, dans son épître, au chapitre 5, versets 17-18. Élie était un homme soumis aux mêmes misères que nous. Il pria instamment pour qu'il ne tombât pas de pluie, et il ne plut pas sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis de nouveau il pria, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit ses fruits. Donc c'est ce que nous venons de voir. Mais donc c'était devant Akab, et devant donc une grande partie du peuple, que s'est produit cette justice de Dieu, par l'intermédiaire d'Élie. Mais il y avait une personne qui était absente à ce moment-là, c'était Jézabel. Et comme c'était Jézabel qui avait fait venir ses 450 faux prophètes de Baal et ses 400 prophètes d'Astarté, quand elle a appris ça, elle était furieuse. Et elle a décidé de mettre à mort Élie. Et Élie, qui, comme on l'a vu, était très, très digne et puis très, très fort en même temps, face à ses idolâtres, eh bien là, il va être pris de panique, si bien qu'il va s'enfuir. Il a peur de la reine Jézabel. Et alors, il y a des commentaires des pères de l'Église pour montrer que quand on a la force de Dieu, on est capable de grandes choses, mais ensuite, quand on est livré à nous-mêmes, eh bien, on devient faible. Chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce que Élie avait fait et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Qu'ainsi me fassent les dieux et qu'ainsi ils m'ajoutent, si demain à cette heure je ne réduis pas ton âme à l'état de l'âme de l'un d'entre eux. » Élie prit peur, partit et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bersabée de Juda et y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert l'espace d'une journée de marche. Arrivé là, il s'assit sous un genêt et demanda pour lui la mort et il dit « C'est assez maintenant, Yahvé, prenez ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Debout, mange !» Donc, épuisé de fatigue, au bout d'une journée, il n'en pouvait plus. Et puis, il demande au bon Dieu de le rappeler à lui. Mais le bon Dieu avait encore d'autres desseins sur lui. C'est comme ça que l'ange donc, lui donne à manger. Et finalement, il va partir pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb. Donc, 40 jours de pénitence. Alors ces 40 jours qui permettent de survivre rien qu'avec ce peu de nourriture, c'est bien sûr une image de la Sainte Eucharistie qui nous permet de... cette nourriture céleste qui nous permet de nous rapprocher de Dieu. Alors ensuite, il va y avoir l'intervention de Dieu. Encore un passage que vous connaissez. Arrivé au mont Horeb, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici que la parole de Yahvé lui fut adressée et lui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai été embrasé de zèle pour Yahvé, le Dieu des armées. » J'ai été embrasé de zèle pour Yahvé, le Dieu des armées. Donc vous voyez qu'il y a ce saint zèle pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Et qu'il a pris aujourd'hui, malheureusement, qui se perd au moins. Car les enfants d'Israël ont abandonné votre alliance, renversé vos autels. Renversé vos autels, regardez aujourd'hui, le nombre d'autels qui ont été détruits. Et tué par l'épée vos prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent ma vie pour l'enlever. Alors Yahvé dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant Yahvé. Et voici que passait Yahvé. Un vent fort et violent déchirait les montagnes et broyait les rochers en avant de Yahvé. Ce n'était pas dans le vent qu'était Yahvé. Après le vent, un tremblement de terre. Ce n'est pas dans le tremblement de terre qu'était Yahvé. Et après le tremblement de terre, un feu. Ce n'était pas dans le feu qu'était Yahvé. Et après le feu, un murmure sourd, léger. Quand Élie entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, et étant sorti, il se tint à l'entrée de la caverne. Et voici qu'une voix lui disait, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai été embrasé de zèle pour Yahvé, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné votre alliance, renversé vos autels et tué par l'épée vos prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent ma vie pour me l'enlever. » Yahvé lui dit, « Va, reprenant ton chemin, au désert de Damas, tu entreras, et tu oindras Hazaël pour roi de la Syrie. Tu oindras Jéhu pour roi sur Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, pour prophète à ta place. Et celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant Baal, toutes les bouches qui ne l'ont pas baisé. » Donc Dieu, en ce moment-là, fait d'abord une triple... Il annonce la mission d'Élie. Élie devra oindre à la fois le roi de Damas, qui pourtant est un roi païen. Et si le bon Dieu demande pour lui d'oindre un roi païen, c'est pour montrer que tout pouvoir vient de Dieu. Même le pouvoir des rois qui ne sont pas chrétiens, ce sont des pouvoirs qui viennent de Dieu, aujourd'hui encore. C'est ce que d'ailleurs notre Seigneur a dit à Pilate, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Ensuite, il va oindre Jéhu. Alors, là, nous étions au roi Akab, Akab qui épousait Jézabel. On est dans le royaume d'Israël. Après Akab va être le règne, il va y avoir le règne d'Ocosias, qui régnera qu'un an. Il sera remplacé ensuite, n'ayant pas de fils, par son frère Joram, qui va régner jusqu'en 846. Mais ensuite, en raison des péchés d'Akab, eh bien, ça va être la fin de la dynastie d'Akab. Et alors, il va y avoir un changement de dynastie, et la dynastie va passer maintenant à Jéhu. Et c'est pourquoi donc le prophète Élie a pour mission, déjà par avance, de oindre Jéhu, qui est choisi par Dieu comme étant le nouveau roi d'Israël, et qui va régner de 846 à 818. Ça va? Vous arrivez à suivre à partir du tableau? Donc, mission du prophète Élie, oindre ces deux rois, et ensuite aussi oindre Élisée. Élisée qui sera le successeur d'Élie. Lorsqu'Élie va monter au ciel, c'est Élisée qui va continuer à exercer sa mission de prophète sur la terre. Et enfin, nouvelle prophétie de Dieu qui dit que par la suite, dans les temps à venir, simplement 7000 hommes resteront en vie dans le royaume d'Israël. Et ces 7000 hommes sont ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Dieu. Tous ceux qui ont fléchi le genou devant Baal, eh bien, mourront d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est pas encore la majorité, malheureusement. Et rester fidèle. Et saint Paul, dans son épître aux Romains, fait allusion à ce passage. Dieu n'a pas rejeté son peuple, donc c'est dans l'épître aux Romains, chapitre 11. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il avait connu par avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans l'histoire d'Élie? Comment il se plaint d'Israël à Dieu? Mais que lui répond la parole divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même donc, encore dans le temps présent, qu'il s'est trouvé un reste choisi par grâce. Donc, saint Paul s'adresse aux Romains et dit qu'il s'est retrouvé un reste parmi les Juifs qui sont demeurés fidèles par la grâce de Dieu. Et ensuite, il dit, mais si c'est par grâce, ce n'est plus à raison des œuvres. Il y a toujours des parallèles à faire entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et alors, quand Élie aura rempli toute cette mission d'onction des rois, il pourra remonter au ciel. Pendant ce temps, a lieu une double invasion du territoire d'Akab par Ben-Hadad II, qui est le roi de Syrie. Mais par faiblesse, Akab ne va pas tuer Ben-Hadad, mais lui laisser la vie sauve. Et Dieu va lui faire savoir par un prophète que cela lui portera malheur. Ensuite, nouveau péché d'Akab. Au livre des rois, toujours dans le premier livre, chapitre 21. Akab va faire tuer Naboth pour s'emparer de sa vigne. Et Dieu va lui faire savoir que des châtiments également vont tomber sur lui en conséquence de ce péché. Mais en apprenant que les châtiments doivent tomber sur lui, Akab commence à regretter son péché. Et en ce moment-là, le bon Dieu, au lieu d'exercer sa justice sur lui, va l'exercer plus tard. Donc, on voit toujours, même si c'est la justice de Dieu qui apparaît, que le bon Dieu est un Dieu de miséricorde, et que si on se repent de ses fautes, eh bien, il remet à plus tard l'exécution de la peine, ou il la diminue. Donc, comme Naboth ne voulait pas donner sa vigne au roi Akab, eh bien, Akab va faire tuer Naboth pour pouvoir avoir sa vigne. Et Dieu va le punir de ce péché. La réalisation de cette prophétie va se passer dans quelques années plus tard. C'est raconté dans le deuxième livre des rois. Un premier livre des rois, chapitre 22. Déjà pour la première partie, verset 29. C'est la mort d'Akab. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je vais me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. » Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné un ordre aux 32 chefs de ses chars en ces termes, « Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais seulement le roi d'Israël. » Donc, le roi Akab. Quand les chefs des chars virent Josaphat, ils dirent, « Sûrement, c'est le roi d'Israël. » Et ils se tournèrent contre lui pour l'attaquer. Mais Josaphat repoussa un grand cri. Quand les chefs des chars virent que ce n'était pas le roi d'Israël, ils le laissèrent. Alors un homme tira de son arc au hasard et atteignit le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à son cocher, « Tourne et fais-moi sortir de la bataille car je suis blessé. » Donc c'est le roi Akab qui est blessé. Le combat s'exaspéra ce jour-là. Le roi était maintenu debout sur le char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Vers le coucher du soleil, ce cri courut dans le camp. Chacun à sa ville et chacun à son pays, parce que le roi est mort. Alors la prophétie, ça avait été qu'un jour, les chiens laperont le sang d'Akab, parce que lui-même avait fait tuer donc, un innocent, avait fait périr une personne innocente. Et lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens lapèrent son sang, selon la parole que Yahvé avait dite. Donc c'est vrai que dans ce testament, il y a toujours des paroles assez sévères sur la justice de Dieu. Mais on ne doit pas voir d'opposition justement entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est sûr que l'Ancien Testament insiste plus sur la justice et le Nouveau plus sur la miséricorde, mais c'est quand même le même Dieu. Donc si le bon Dieu n'exerce pas toujours sa justice sur la terre, eh bien il l'exercera dans l'au-delà, si nous ne savons pas recourir à sa miséricorde. Oui, quant à Jézabel, eh bien, elle aussi va mourir d'une mort assez terrible. On va la précipiter par la fenêtre, et puis bon, après, il y a encore ses entrailles qui vont se répandre. Enfin, c'est une histoire encore assez terrible, hein, qui montre la mort des pécheurs, ceux qui s'endurcissent dans le péché. Alors, après la mort d'Akab, Ocosias va régner à sa place. Ocosias, son fils. Mais lui aussi va consulter les dieux païens, et entre autres Béelzéboub. Béelzéboub qui est le dieu des mouches. Il va consulter le dieu des mouches, donc Béelzéboub, pour savoir s'il va guérir de sa maladie. Et Dieu va reprocher à Ocosias, par l'intermédiaire d'Élie, d'avoir prié les faux dieux, et va lui annoncer sa mort. Donc, il est malade. Pour savoir s'il va guérir, il va consulter les faux dieux. Et Élie lui annonce sa mort parce qu'il a justement consulté les faux dieux. Et alors, Ocosias, en apprenant que Élie lui annonce des malheurs, veut faire capturer Élie. Et il fait venir 50 hommes pour arrêter Élie. Alors, le prophète Élie, en ce moment-là, c'est dans c'est le début du deuxième livre des rois. Il va faire tomber le feu du ciel. Et le feu du ciel va tomber sur ces 50 hommes qui vont périr à l'instant. Mais Ocosias, ça ne l'arrête pas. Il est toujours aussi furieux. Alors, il prend 50 autres hommes. Il envoie à nouveau pour faire arrêter Élie. Deuxième expédition. La deuxième fois, Élie, comme d'habitude, enfin comme la première fois, il dit « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume avec tes 50. » Deuxième fois. Donc le feu consume de nouveau les 50. Le roi reste aussi furieux, aussi décidé. Troisième expédition. Alors celui qui dirige l'expédition, là, il commence à avoir un petit peu peur quand même. Hein. Il n'est pas très sûr de lui, là. De nouveau, le roi envoya un troisième chef de 50 avec ses 50. Le troisième chef de 50 monta, et en arrivant, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, « Homme de Dieu, de grâce, que ma vie et que la vie de ses 50 et serviteurs soient précieuses à tes yeux. Voici que le feu du ciel est descendu et a consumé les deux premiers chefs de 50 avec leurs 50. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. » L'ange de Yahvé dit à Élie, « Descends avec lui et ne le crains pas. » Élie alors partit et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit, « Ainsi dit Yahvé, parce que tu as envoyé des messagers consulter Baal-Zéboub, dieu d'Escron, n'y a-t-il pas de dieu en Israël dont on puisse consulter la parole ? Et à cause de cela, du lit sur lequel tu es monté, tu ne descendras pas, mais tu mourras certainement. » Ocosias mourut selon la parole de Yahvé qu'Élie avait dite. Et Joram, son frère, car il n'avait pas de fils, devint roi à sa place. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, Joram. Donc, vous voyez, il ne faut pas aller consulter les voyantes pour savoir pourquoi est notre avenir. Sinon, bien, ça peut mal se terminer. Et ensuite, Élie, une fois qu'il a accompli sa mission sur la terre, il va monter au ciel. Cela est raconté dans le deuxième livre des Rois, chapitre 2. Lorsque Yahvé fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie s'en allait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car Yahvé m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « Vive Yahvé et vive ton âme, je ne te quitterai pas. » Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel abordèrent Élisée et lui dirent, « Sais-tu que Yahvé va prendre aujourd'hui ton maître de dessus ta tête ?» Il répondit, « Je le sais moi aussi, mais silence. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car Yahvé m'envoie à Jéricho. » Il lui répondit, « Vive Yahvé et vive ton âme, je ne te quitterai pas. » Donc, à plusieurs reprises, Élie s'arrête en disant à Élisée de ne pas aller plus loin. Mais Élisée, peut-être par curiosité, mais aussi peut-être par amitié pour Élie, ne veut pas le quitter. Il veut aller jusqu'au bout pour voir où est-ce qu'il va s'en aller. Et ainsi donc, il va jusqu'à Jéricho, et ensuite, il va jusqu'au Jourdain. Et finalement, 50 hommes d'entre les fils des prophètes les escortaient, mais se tenant à distance. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie, prenant son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent en deux, de part et d'autre, et ils passèrent tous deux à pied sec. Donc Élie et Élisée traversent le Jourdain, que vous voyez là, à pied sec. Ils continuaient de marcher et de parler, et voici un char de feu et des chevaux de feu. Ils les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée voyait et criait, « Mon père, mon père !» Char d'Israël et ses cavaliers. Puis il ne le vit plus. Il saisit alors ses vêtements et les déchira en deux morceaux, et il releva le manteau d'Élie qui était tombé de dessus lui. Ensuite, il revint au Jourdain. Il s'arrêta sur le bord, et prenant le manteau d'Élie qui était tombé sur lui, il frappa les eaux et dit, « Où est Yahvé, le Dieu d'Élie? Où est-il ?» Et il frappa les eaux, elles se partagèrent en deux de part et d'autre, et Élisée passa. Donc, Élisée qui va maintenant poursuivre la mission d'Élie. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho en face le virent et dirent, « L'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. » Et allant à sa rencontre, ils se prosternèrent contre terre devant lui. C'est le seul cas de la Sainte Écriture, on voit. Ils se prosternèrent contre terre devant lui. C'est le seul cas de la Sainte Écriture, on voit un homme comme ça qui ne meurt pas, mais qui est monté au ciel, transporté au ciel. Alors, avant de dire un mot sur le retour d'Élie, il y a une prophétie posthume. Une dernière intervention d'Élie. On dit posthume, mais bien qu'il ne soit pas en terre, parce que hume, c'est humus, mais il n'était pas... Mais une prophétie, en tout cas, qui est après cette ascension d'Élie. On est dans le royaume de Juda sous le règne de Joram. Alors maintenant, c'est Joram de Juda. Ce n'est plus Joram d'Israël. Donc c'est pour ça que j'ai écrit en bleu. C'est le descendant des rois de Juda. Joram est un ignoble personnage qui a massacré tous ses frères pour éviter d'avoir des rivaux. Il fit ce qui est mal aux yeux de Dieu, parce qu'il avait pour femme une fille d'Akab. Donc Akab, qui est le roi dont nous avons parlé tout à l'heure, avait deux fils qui sont succédés sur le trône, Ocosias et Joram, mais il avait aussi une fille qui s'appelait Athalie. Et le malheur de Joram vient qu'il a épousé une fille d'Akab, qui était malheureusement aussi pervertie que son père. Et en effet, Athalie va pousser les gens de Juda à vénérer les idoles. Et donc, il va y avoir de nouveau une intervention d'Élie qui va prédire qu'il va connaître de grandes souffrances à cause de ce péché. Alors, ça, c'est dans le deuxième livre des Chroniques que c'est raconté. Il lui vint un écrit de la part du prophète Élie, disant, « Ainsi dit Yahvé, le Dieu de David, ton père, parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat, ton père, Josaphat qui était le père donc de Joram,
mais que tu as marché dans la voie des rois d'Israël, parce que tu as poussé à la prostitution Juda, prostitution dans le sens religieux, et les habitants de Jérusalem, comme la maison d'Akab poussait à la prostitution, c'est toujours considéré par Dieu comme étant une prostitution, que d'aller spirituel, que d'aller rencontrer des gens qui adorent les faux dieux. Et parce que tu as tué tes frères meilleurs que toi, voici que Yahvé frappera d'un grand coup ton peuple, tes fils, tes femmes et tout ce qui t'appartient. Et toi, tu souffriras de graves maladies, d'une maladie d'entrailles, telle que tes entrailles sortiront ensuite du mal pendant de nombreux jours. Et c'est ce qui s'est produit par la suite. Donc, de nouveau, Élie vient réclamer les droits de Dieu, les droits du vrai Dieu, du seul vrai Dieu. Alors, le retour d'Élie. Au moment de la transfiguration, c'est un passage très important dans la Sainte Écriture. D'ailleurs, la communauté où se trouve mon frère, la communauté de Mérigny, s'appelle la communauté de la transfiguration, et toute leur spiritualité est centrée sur cette spiritualité du mont Tabor. Eh bien, notre Seigneur est entouré de Moïse et d'Élie. Dans la montagne, les apôtres posent la question à notre Seigneur. Pourquoi les scribes disent qu'Élie doit revenir d'abord? Et notre Seigneur répond, Élie doit venir et rétablira toute chose. Matthieu chapitre 17, versets 10 et 11. Donc notre Seigneur parle qu'Élie doit revenir. Et cette croyance des Juifs à l'époque de notre Seigneur sur le retour d'Élie reposait sur deux faits. Premier fait qu'on a décrit tout à l'heure, c'est l'ascension d'Élie au ciel sur un char de feu qui a lieu vers 850 avant Jésus-Christ. Le fait qu'il soit monté au ciel, on a pensé qu'il un jour il allait peut-être revenir. Et ensuite, il y a une prophétie de Malachie. Prophétie de Malachie de l'Ancien Testament au chapitre 3, verset 23. Malachie qui a vécu à peu près 4e siècle avant Jésus-Christ. 5e siècle, 4e siècle. Voici que je vous envoie Élie le prophète avant que vienne le jour de Yahvé grand et redoutable. Donc, avant le retour, que vienne le jour de Yahvé grand et redoutable. Donc, ça veut dire qu'à la fin des temps, donc le jour d'Yassiré, d'Yassila, le jour de colère, le jour redoutable du retour de Yahvé à la fin des temps, avant, il devait y avoir la venue d'Élie, du prophète Élie. Mais même déjà, comme il doit venir à la fin des temps, on pensait qu'il allait déjà venir préparer la venue de notre Seigneur dans son premier avènement. Et cette croyance est confirmée par le livre de l'Ecclésiastique, qui a été écrit au IIe siècle avant Jésus-Christ. Élie, toi qui as été désigné dans de sévères écrits pour des temps à venir, pour apaiser la colère avant qu'elle s'enflamme, ramener le cœur du Père vers l'enfant et rétablir les tribus d'Israël. Heureux ceux qui te verront et qui seront prêts, parés de l'amour de Dieu. Élie donc reviendra à la fin des temps. Mais Élie a été figuré par Saint Jean-Baptiste. Et c'est ce qui explique que notre Seigneur dit, après l'épisode de la transfiguration, « Toutefois, je vous le dis, Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont même fait de lui ce qui leur a plu et le Fils de l'homme sera traité pour eux de la même façon. » Ils ont fait de lui ce qui leur a plu, donc à savoir qu'ils l'ont coupé la tête, donc ils l'ont massacré et le Fils de l'homme sera traité de la même manière. Alors les disciples comprirent qu'il leur avait parlé de Saint Jean-Baptiste. Donc, Saint Jean-Baptiste était en quelque sorte une figure d'Élie. Mais il n'était pas Élie en personne, bien sûr. Donc, Jean-Baptiste est Élie dans le sens où il a la puissance d'Élie. L'ange dit à Zacharie, « Élisabeth te donnera un fils que tu appelleras Jean. » Il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, préparant pour le Seigneur un peuple bien disposé. » Donc ça c'est Saint-Luc chapitre 1, versets 16 et 17, hein, qui annonce que Saint-Jean-Baptiste, prophétie de Zacharie, qui annonce que son fils Jean-Baptiste aura avec lui l'esprit et la puissance d'Élie. Mais Jean n'est pas Élie à proprement parler. En effet, voici le témoignage de Jean quand de Jérusalem les Juifs lui envoyèrent des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu ?» Il y a une délégation qui va trouver Jean-Baptiste pour lui demander qui il est. Et à la question, on lui demande « Es-tu Élie ?» Et il répond « Non, je ne le suis pas. » Donc, Saint Jean-Baptiste n'est pas Élie à proprement parler. Mais cette question « Es-tu Élie ?» montre bien que les Juifs, à l'époque de notre Seigneur, attendaient le retour d'Élie. Et après la mort de Saint Jean-Baptiste, certains croyaient que notre Seigneur était Élie. C'est encore Saint Marc qui le dit au chapitre 6, verset 15. Les uns disaient, c'est Saint Jean-Baptiste qui est revenu, parce qu'il avait été décapité, mais certains croyaient que c'était lui qui était revenu. D'autres disent que c'est Élie. Et de même, quand on pose la question à Saint Pierre, qui est le fils de l'homme au dire des gens? D'après les uns, Saint Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste, et d'après les autres, Élie. Donc on retrouve encore ici Élie. Dernier passage où il y a une allusion à Élie, c'est sur la croix. Notre Seigneur appelle son père Eloi, et certains se demandent si c'est Élie qui va venir le sauver. Donc il a l'impression que notre Seigneur appelle Élie. Alors qu'en fait, il appelle son père. Donc, l'ensemble des Juifs attendait le retour d'Élie d'une manière actuelle, au temps de notre Seigneur. Et cette tradition a été transmise ensuite par les pères de l'Église et reçue communément dans l'Église. Et saint Augustin disait lui-même, dans la Cité de Dieu, « Les fidèles croient et disent qu'à la fin des temps, Élie arrivera comme précurseur de notre Seigneur. Il convertira les Juifs et il est à croire qu'il est toujours vivant. » Donc il faut croire qu'Élie est toujours vivant. Ça reste mystérieux, mais il est toujours vivant. Donc Élie n'est pas mort. Il reviendra sur la terre avant le second avènement de notre Seigneur, donc avant la parousie, avant le retour de notre Seigneur à la fin des temps, et il sera persécuté comme notre Seigneur. Et il y a une allusion, en effet, dans le livre de l'Apocalypse, au prophète Élie, au retour d'Élie. Il s'agit des deux témoins, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 11, verset 3. « Je ferai prophétiser mes deux témoins, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux candélabres dressés devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit être tué. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne tombe pas de pluie durant les jours prédits par eux. » Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre. Donc quand on dit qu'ils ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne tombe pas de pluie, c'est une allusion à Élie qui justement a prié et sa prière a été exaucée par Dieu, si bien qu'il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Donc voilà un petit peu l'ensemble d'Élie dans la Sainte Écriture. Alors comment conclure ? Eh bien, Élie est vraiment, avec Moïse, la plus grande figure de l'Ancien Testament. Et c'est pour cela qu'il a eu le privilège d'apparaître à côté de notre Seigneur à la Transfiguration. Moïse est le promulgateur de la loi, et Élie est le défenseur de la loi. Donc le résumé de la fonction d'Élie, c'est le défenseur de la loi. Mais on remarque que l'un comme l'autre, qui ont eu ce privilège d'apparaître au temps de notre Seigneur, et qui montre que le vrai Dieu, eh bien, qu'est notre Seigneur, c'est bien le Dieu d'Élie et le Dieu de Moïse,
bien Moïse, vous avez vu comment est-ce qu'il a agi face au veau d'or. Quand il est descendu de la montagne sainte, il a fait briser les tables de la loi sur le veau d'or et il l'a réduit en poussière. Et Élie, vous avez vu son attitude également face aux faux prophètes. On ne connaît de la vie d'Élie que des épisodes très brefs. C'était un ermite qui recherchait au désert le contact avec Dieu. C'était un contemplatif. C'est dans la brise légère que le bon Dieu est apparu à Élie. Donc ça montre que le bon Dieu n'apparaît pas toujours dans le bruit, mais au contraire dans le silence. Et donc il faut trouver le silence pour nous approcher de Dieu. Il a dû vivre sans doute avec d'autres prophètes au Mont Carmel, et c'est un prophète vierge. On voit que c'est un justicier des droits de Dieu, devant qui rien ne résiste quand il est habité de la force de Dieu. Mais on voit également sa faiblesse en dehors de sa mission, et entre autres la fuite face à la reine Jézabel. Il est miséricordieux. Ceci se voit en particulier lorsqu'il se fait l'attitude qu'il a vis-à-vis de la veuve de Sarepta, la veuve de Sidon, où il va rester pendant 3 ans et demi. On voit qu'il fuit les honneurs, et c'est pour ça qu'il monte au ciel. Et il est l'inspirateur de l'ordre du Mont Carmel. Le Mont Carmel, qui ensuite a donné naissance donc à un ordre, le Saint-Simon Stock, et puis ensuite même l'ordre des Carmélites, eh bien, tout a pour origine le prophète Élie. Il vit dans la pauvreté, on voit mendier sa nourriture des oiseaux du ciel, d'abord le corbeau, je vous ai dit, qui le nourrissait au début de la sécheresse, ensuite c'est la veuve de Sarepta qui va le nourrir, ensuite quand il ira vers le mont Horeb, c'est l'ange de Dieu, donc il s'abandonne complètement à la providence. C'est un homme de prière et il montre l'efficacité de la prière puisque à sa parole la pluie cesse et la pluie revient. Et c'est également le contemplatif, on le voit donc dans le mont Horeb, au sommet du mont Horeb, avec Dieu. Et alors en conclusion, je vais vous donner le passage du livre de l'Ecclésiastique, livre du 2e siècle avant Jésus-Christ, qui est un des livres de l'Ancien Testament, un des 7 livres de la sagesse, qui décrit cette grandeur, la grandeur du prophète Élie. Ensuite se leva Élie, prophète semblable au feu. Et sa parole était enflammée comme un flambeau. Il fit venir la famine sur Israël, et par son zèle, il le réduisit à un petit nombre, 7 000. Par la parole du Seigneur, il ferma le ciel. De même, il en fit 3 fois tomber le feu. Donc là, le feu du ciel, une fois, c'était au moment de... où il a pris à témoin les faux prophètes, et puis 2 fois il a fait tomber le feu du ciel quand on a voulu l'arrêter, lorsque le roi Ocosias a voulu l'arrêter, quand il avait appris qu'il allait mourir. Combien tu t'es couvert de gloire, ô Élie, par tes prodiges, et qui pourrait égaler ta célébrité, toi qui as ressuscité un trépassé de la mort. Alors, c'était le fils de la veuve de Sarepta. Ça, j'ai pas développé ce passage. Toi qui as précipité des rois dans la destruction et d'illustres personnages à bas de leur couche, toi qui as entendu sur le mont Sinaï des remontrances et sur l'Horeb des arrêts de vengeance, toi qui as sacré des rois pour exercer des rétributions et des prophètes pour te succéder, toi qui fus enlevé dans un tourbillon de flammes et dans un char aux chevaux de feu, toi qui as été désigné dans de sévères écrits pour des temps à venir pour apaiser la colère avant qu'elle s'enflamme, ramener le cœur du Père vers l'enfant et rétablir les tribus d'Israël. Heureux ceux qui te verront et qui seront parés de l'amour de Dieu, car nous aussi, nous serons certainement en vie. Donc je crois que ces dernières paroles sont des paroles consolantes pour nous. Si Élie est toujours en vie, c'est que justement, il a encore une mission à remplir sur la terre, et sa mission est entre autres de préparer le retour du Messie lorsqu'il viendra, et en particulier avec la verve qu'on a pu voir avec laquelle il a agi vis-à-vis des faux prophètes. On peut penser qu'il agira pareil vis-à-vis des faux dieux, et qui permettra ainsi même la conversion du peuple juif, qui ensuite préparera eh bien, le retour du Fils de Dieu. Voilà. Y aurait-il des questions à poser sur les mystères du prophète Élie, si certains sont encore réveillés? Où est-ce qu'il est? Oui. Je ne l'ai jamais vu, en tout cas. Hier, j'ai parlé des mystico-dingos, mais encore personne n'est venu me voir en prétendant être Élie, encore. J'ai pas encore eu ça. Ah, il est quelque part, ça c'est sûr. Hein. Mais où est-il? Le mystère, Dieu seul le sait. Hein. Bon, eh bien, on va terminer par une prière.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Cœur sacré de Jésus, cœur douloureux et immaculé de Marie, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
L'année prochaine, je pense que nous étudierons les 10 commandements.